Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, histoire d'eau, le président et son ancien ministre, ensemble en bateau pour une visite dans les Calanques de Marseille. C'est la photo politique de la matinée, troisième journée de la visite présidentielle dans la ville sur le thème de la protection de la nature. La Méditerranée est en danger, nous dira le président du Muséum d'Histoire Naturelle.
Il y a une vraie urgence, et ça concerne bien sûr tous les pays du pourtour méditerranéen, et c'est pas simple à gérer.
Hier à Marseille, le président a fâché les syndicats d'enseignants en proposant que dans une série d'écoles laboratoires, les directeurs puissent choisir les enseignants. Les vendanges 2021 s'annoncent comme les plus faibles des 20 et 21e siècles. C'est ce que dit le président du syndicat des vignerons indépendants qui sera avec nous. Mauvaise récolte, conséquence des intempéries du printemps. 2 ans exactement après le Grenelle des violences conjugales, bilan mitigé pour l'une de ses mesures phares, les bracelets anti-rapprochement. Nous prendrons le temps de vous expliquer. Dans l'actualité encore, la vaccination possible sans rendez-vous ce week-end en France, objectif 50 millions. Éric Zemmour prêt à débattre avec Marine Le Pen. Un problème pour une éventuelle candidature Zemmour, l'amateurisme de son équipe, nous dira Anne Souhaitemont. Encore des médailles d'or pour la France en paralympique, en équipe, tennis de table, tennis fauteuil, la Mostra de Venise et le dernier film de Paolo Sorrentino. À 13h30, notre invité, le journaliste et écrivain Éric Fotorino, il publie Mohican chez Gallimard qui raconte la disparition du monde paysan. Pour dialoguer avec Éric Fotorino, si vous êtes agriculteur par exemple, intervenez 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Dans le vif de l'histoire, une nouvelle biographie d'Henri IV et dans C'est une chanson, nous écouterons du Philippe Catherine. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Emmanuel Macron et Nicolas Hulot embarqués sur le même navire dans les Calanques de Marseille. Troisième jour du déplacement présidentiel. Aujourd'hui sur le thème de la protection de la nature, alors que le chef de l'État prononcera un discours au Congrès mondial de la nature ce soir. Nicolas Hulot, ancien ministre de l'Environnement d'Emmanuel Macron, toujours en tête des baromètres de popularité, est l'un des principaux intervenants de ce congrès. Photo donc des deux côte à côte dans les Calanques. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
En direct du Vieux-Port à Marseille. Séquence médiatique à double tranchant pour le président.
Oui, parce que d'un côté, il y a cette image, c'est vrai, qui ne peut pas déplaire à l'Élysée. Emmanuel Macron et Nicolas Hulot sur un bateau, finalement, ils ne sont pas si fâchés. 3 ans après le départ fracassant du second, la preuve, ces deux-là se tutoient toujours. Mais derrière la carte postale, il y a le fond et un Nicolas Hulot très critique du bilan écolo du président. S'il est ici, ce n'est donc pas pour lui offrir l'image d'une réconciliation et lui servir de caution, non. C'est pour lui faire passer un message. La France prendra la présidence tournante de l'Union européenne en janvier pour 6 mois, c'est maintenant ou jamais.
Faisons de ce sujet une des priorités et notamment encore une fois sur le plan pesticides, c'est pas la seule cause de l'érosion de la biodiversité mais c'est une des causes majeures. Et pour l'instant, force est de reconnaître que sur notamment la réduction des pesticides, on est très loin du compte.
Seulement 0,25% du plan de relance consacré à la biodiversité, ce n'est pas suffisant, poursuit Nicolas Hulot. Une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron, le président sait que son bilan vert sera pointé comme une faiblesse par ses adversaires. Il est donc ici aussi à Marseille. Pour contrer ces critiques, l'Élysée promet un discours fort cet après-midi en ouverture du Congrès mondial de la nature.
Simon Le Baron avec Romain Lucquiens pour France Inter à Marseille. À ce Congrès de la nature, le président devrait notamment défendre un plan pour la Méditerranée. Il y a urgence, nous dit Bruno David, qui est à la fois biologiste marin et président du Muséum d'Histoire Naturelle. Il nous dit pourquoi.
C'est bien de faire des espaces protégés, c'est nécessaire même de faire des espaces protégés. Mais il ne faut pas que ça nous dédouane, que ça nous serve d'alibi pour faire n'importe quoi ailleurs. Si on fait un zoom sur la Méditerranée, on a une mer qui est très particulière. En Méditerranée, l'eau de fond est à 13 degrés. Dans une mer fermée, ça veut dire que la circulation qui permet l'oxygénation de l'eau, elle ne peut se faire que si l'eau de surface descend sous 13 degrés pendant l'hiver, de façon à ce qu'elle descende, comme elle sera plus dense, elle va descendre vers le fond, celle du fond va remonter en surface et on aura une oxygénation de l'ensemble de la masse d'eau méditerranéenne. Si ce circuit s'arrête, la Méditerranée, ça devient un égout qui va devenir invivable. Ça mettrait d'abord en danger, évidemment, l'eau qui est très au fond de la Méditerranée, hein, à plusieurs centaines de mètres, voire milliers de mètres de profondeur en Méditerranée. Mais ensuite, ça pourrait remonter vers la surface. C'est un petit peu comme une mare qui ne s'oxygène pas. Il y a une vraie urgence. Et là aussi, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Hein. Il faut simplement moins polluer, faire attention à ce qu'on met dedans, si on ne veut pas continuer de la transformer en égout. Et ça concerne bien sûr tous les pays du pourtour méditerranéen et ce n'est pas simple à gérer.
À propos propos recueillis par Célia Quiret hier avec l'une de ses nombreuses annonces depuis Marseille. Emmanuel Macron a fâché les syndicats d'enseignants. Parmi les objets de sa visite, l'éducation, l'état lamentable d'une partie des écoles à Marseille. Mais le président a aussi parlé de l'école sous un autre angle. À la rentrée prochaine, dans 50 écoles laboratoires, les directeurs pourront choisir les enseignants avec qui ils travaillent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Commentaire de Stéphane Crochet, le secrétaire général du SE UNSA.
La proposition surprise du président, c'est surtout de vieilles lunes libérales qui ne reposent en tout cas pas sur la réalité des écoles et encore moins de celle de Marseille, comme si les enseignants n'étaient pas engagés dans la vie de leur école parce qu'ils ne seraient pas choisis par leur directeur d'école. Tout a montré au président dans sa visite que les enseignants étaient fortement engagés malgré les conditions d'enseignement assez catastrophiques dans lesquelles ils vivent avec leurs élèves depuis très longtemps. Et donc, on a là une annonce qui veut être moderne, qui veut parler d'innovation. Eh bien, l'innovation, ça s'impose pas de l'Élysée. Ça se construit dans les écoles. Je crois que les enseignants ont montré à Marseille qu'ils étaient particulièrement motivés et pourtant ils ne sont pas issus d'une procédure de recrutement propre à leur école, mais ils ont choisi d'être enseignants de l'école publique et ils montrent tous les jours et depuis très longtemps qu'ils sont particulièrement engagés.
Propos recueillis par Fabien Cazot à droite. Ce début septembre est très délicat, pas de décision encore sur une primaire ou non, à la fin du mois peut-être. Le dernier sondage Kantar pour le Figaro Magazine complique la donne. La popularité des deux favoris, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, est en forte baisse parmi les sympathisants de droite. Xavier Bertrand perd 10 points dans cette catégorie, Valérie Pécresse 16. Dans l'opinion en général, cote de Xavier Bertrand 28%, Valérie Pécresse 26%. Et la droite est toujours sous la menace d'une candidature d'Éric Zemmour qui pourrait tenter une partie de son électorat. À propos de Zemmour, information de ces dernières heures, il se dit prêt à débattre avec Marine Le Pen. C'est Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a lancé l'invitation. Alors candidat ou pas Zemmour, en tout cas, il a un gros problème à régler. Anne Souhaitemont.
Une équipe d'amateurs contactée pour intégrer la PME Zemmour, ce responsable LR habitué des campagnes n'en revient pas. Financement, parrainage, communication, ils ne sont pas prêts. Si Éric Zemmour accélère, suspension de sa collaboration avec le Figaro, sortie d'un livre, meeting à Toulon, selon le Parisien, le polémiste pâtit d'un entourage qui ne sait pas faire campagne. Exemple sur les 500 signatures. Éric Zemmour finit par mouiller la chemise en personne. Sa cible, les réseaux fillonistes. En quelques jours, il approche plusieurs parlementaires LR, consulte, envoie un SMS à Laurent Wauquiez. Occuper le terrain, capitaliser sur le désarroi à droite pour tenter de décrocher de précieux parrainages, sénateur LR Sébastien Meurant l'envisage, mais fait figure d'exception pour l'instant. Deuxième défi de taille pour Éric Zemmour, l'orchestration d'une éventuelle candidature. Mal conseillé selon un cadre LR, il aimerait muscler sa communication, sollicitant par exemple l'ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, qui a accepté de lui répondre, mais uniquement par amitié.
Voilà, Franck Louvrier n'est pas allé au-delà d'une réponse de politesse. À propos de François Fillon, une enquête le visant et qui a été ouverte il y a 4 ans, refait surface dans les médias, enquête préliminaire. À nouveau, c'est le travail réel d'un de ses assistants parlementaires qui est en cause, Maëlle Renoir, plume d'un livre de François Fillon en 2015. Est-ce que cela justifie un contrat d'assistant parlementaire ?
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Alors que les vendanges sont en cours en France, les premières remontées sont alarmantes. La récolte 2021 s'annonce particulièrement faible. Pour en parler avec nous, le président des vignerons indépendants, Jean-Marie Fabre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes vous-même vigneron à Fitou dans l'Aude. Vous dites, on pourrait avoir la plus faible récolte des 20 et 21e siècles.
Oui, c'est exact. Tout à fait. Les conditions météo de ce printemps, ce gel historique qui a quasi épargné aucun vignoble français, a été en plus accentué à la fin du printemps et tout cet été par soit de la pluviométrie très forte dans les zones septentrionales, avec derrière tout un tas de pertes en matière de production, soit de sécheresse sévère, quasi jamais inédite, dans tout le pourtour méditerranéen.
Où est-ce que les récoltes, pour l'instant, ont eu lieu ? D'où avez-vous les premières remontées, Monsieur Fabre ?
Alors moi, je suis dans cette zone méditerranéenne, et c'est vrai que le pourtour méditerranéen a démarré il y a une quinzaine de jours. On est à peu près à un tiers des vendanges. On commence à avoir les premières mesures, estimations. Et effectivement, il semble se confirmer que au-delà même de la prévision de 30% de pertes au niveau national, on arrive à des taux de pertes beaucoup plus élevés. Donc c'est ce qui me fait affirmer très clairement que nous serons dans une récolte qui ne dépassera pas 30 millions d'hectos. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 47 quasiment millions d'hectos l'année dernière sur la production française, et c'est un petit peu plus de 42 millions d'hectos en moyenne annuelle depuis maintenant une grosse vingtaine d'années.
Ouais, on est très très loin de la moyenne annuelle. Chez vous à Fitou, ça se passe comment ?
Ben, on n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que le gel nous a moins impacté parce que je touche la Méditerranée, je suis dans un secteur, heureusement pour nous, et qui a été très très peu touché par le gel, mais la sécheresse est terrible. On a cette année, de vendange à vendange, l'équivalent de moins de l'année de pluie dans les zones désertiques, moins de 250 mm, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, on a des mous qui sont très beaux, très aromatiques, j'espère qu'on va derrière pouvoir vinifier de produits remarquables, mais malgré tout, je suis moi personnellement dans une vinification qui va m'amener entre 30 et 40% de baisse de récolte uniquement par l'effet climatique sécheresse.
Est-ce que cela veut dire que vous allez vendre votre vin nettement plus cher ?
Ça, je crois que c'est un raccourci qu'on aimerait tous peut-être faire, mais malheureusement,
éviter.
ne s'opère pas comme ça. D'abord, parce que les consommateurs, effectivement, quand bien même sont parfois fidèles et comprennent bien les difficultés dans lesquelles nous sommes, ne sont pas non plus prêts à avoir une augmentation d'un prix qui est fonction de la fluctuation de la matière première. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais effectivement, on va être dans une espèce d'entonnoir, d'effet ciseau, parce que souvenez-vous aussi que notre pays est touché par une pandémie qui a engendré des contextes commerciaux très difficiles pour nos entreprises vignerons indépendants et pas que depuis 18 mois. Et aujourd'hui, on va se retrouver à l'horizon 2022 avec des charges supplémentaires, avec des trésoreries très affaiblies et forcément des niveaux de commercialisation qui seront très bas, donc des recettes basses liées à 30, 40 ou 50% de récolte inférieure à une année normale.
Et un manque de main-d'œuvre ?
Et un manque de main-d'œuvre, c'est aussi une récurrence. Vous savez, les travaux saisonniers, les travaux manuels n'ont pas forcément des travaux qui ont forcément la cote. Et puis, la pandémie a aussi rajouté à l'insécurité de travailleurs saisonniers qui, venant d'autres pays que le nôtre, ne savent pas trop quelles seront les contraintes qui leur seront imposées. Donc, la crainte aussi liée à tous ces éléments de gestion sanitaire qui parfois divergent d'un pays à l'autre amenuise aussi l'ensemble du sourcing, si je peux me permettre de la main-d'œuvre saisonnière qui vient intervenir sur nos récoltes.
Est-ce que moins de récoltes, ça veut dire moins de besoin de main-d'œuvre, Jean-Marie Fabre ?
Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, certes, dans des vignes gelées, il y a parfois moins de grappes, mais par contre, dans des vignes qui souffrent, alors soit d'excès de pluie, soit justement de grande sécheresse, le nombre de grappes est toujours là. Oui. Mais il y a un travail beaucoup plus méticuleux à faire de sélection de grappes, voire de récolte de toutes ces grappes quand on est en sécheresse. C'est juste que le volume de la baie, le volume du raisin est moins important. Et donc, au final, les jus vont être inférieurs.
Vous vous dites que, à votre tour, les viticulteurs, vous êtes touchés par le dérèglement climatique ?
Oui, je crois que le changement climatique, on le pointe du doigt déjà depuis plusieurs années, je dirais presque une petite décennie. Ce qui paraissait être à l'époque un aléa climatique par génération le devient quasiment tous les 3 ans. Mm-hmm. Et que ces changements climatiques, on a l'obligation ensemble, nous, l'ensemble des décideurs, de s'y adapter et de proposer des solutions pour que continue à exister cette économie alors prépondérante. Et moi, je parle de la viticulture, n'oublions pas que c'est la seconde source dans la balance du commerce extérieur français, c'est la seconde source économique. Et donc, c'est un maillage et une économie territoriale importante. Donc il faut s'adapter à ce changement climatique avec plusieurs solutions. Et je crois que maintenant, c'est pas derrière nous, on y est en plein.
Dernière question, peut-être une bonne nouvelle, moins de récoltes. Est-ce que ça veut dire que le vin sera de meilleure qualité ou pas forcément ?
Alors, la qualité d'un vin, c'est pas uniquement le volume de production, c'est tout le travail qui est fait en amont, c'est toute la qualité aussi et le savoir-faire, le talent des vignerons, hommes ou femmes d'ailleurs, qui vont créer ces vins pleins de plaisir et d'émotion. Et il n'y a pas de corrélation entre quantité et qualité en général. J'espère et je suppose que les vignerons mettront malgré toutes ces difficultés, toute leur âme pour faire des vins de plaisir et des vins d'émotion dans ce contexte-là.
Merci Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants, d'avoir pris quelques minutes avec nous. Allez, comme chaque midi dans ce journal, prenons le temps de nous arrêter sur une autre des informations du jour. 2 ans exactement aujourd'hui, après le lancement du Grenelle des violences conjugales, il reste beaucoup de failles dans le dispositif censé mieux protéger les femmes. Selon le collectif Féminicide, 77 ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. C'était 102 l'année dernière, 146 en 2019. Depuis le tribunal judiciaire de Coutances dans la Manche aujourd'hui, le Premier ministre devrait signer une circulaire pour que plus de comités de pilotage locaux qui réunissent magistrats, associations, préfectures, agences de santé se mettent en place. À l'issue du Grenelle, il y a 2 ans, 46 mesures avaient été prises et 2 parmi les plus emblématiques ont des résultats mitigés. Le téléphone grave danger, l'objectif était d'en distribuer 3000, un peu plus de la moitié seulement sont actifs. Bilan mitigé aussi pour les bracelets anti-rapprochement. Bonjour Winnie Claret.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Alors rappelons de quoi il s'agit Winnie et combien ont été distribués.
Alors le bracelet anti-rapprochement, c'est l'un des dispositifs de prévention. On a d'un côté le bracelet électronique posé à la cheville du conjoint ou ex-conjoint violent, et de l'autre un boîtier noir, une sorte de gros téléphone portable pour la victime qui doit l'avoir toujours sur elle. Les deux sont géolocalisés, un système d'alerte se déclenche dès que l'auteur et la victime se trouvent dans un périmètre défini par le juge, ça va de 1 à 10 km. Si le conjoint entre dans la zone d'alerte, la victime est contactée, les forces de l'ordre, elles, doivent intervenir. Toutes les juridictions aujourd'hui en sont dotées, et côté chiffres, 1000 bracelets sont à la disposition des parquets, mais pour l'instant seulement 341 ont été prescrits par la justice et 245 sont activés.
Parce que le système n'est pas aussi efficace qu'attendu ?
En fait, ce n'est pas vraiment un problème d'efficacité. En tout cas, selon les magistrats, le bracelet anti-rapprochement a son utilité, mais il n'est qu'un maillon de la chaîne de la protection des victimes. Selon Marie-Vonne Caillebotte, la procureure de Versailles, il ne faut pas tout miser sur la barre.
Il n'y a pas de mesure essentielle. Il y a un ensemble de mesures qui, ajoutées les unes aux autres, en fonction des dossiers, des personnalités, des circonstances, trouvent à s'appliquer de manière plus ou moins opportune. Ce qui est important, c'est d'avoir un panel de possibilités. Parce que nous, dans les juridictions, ce que l'on voit, c'est une situation qui ne ressemble pas à la seconde, ni à la troisième, ni à la dixième, ni à la vingt-cinquième, ni à toutes les centaines de procédures qu'on traite en compagnie des services d'enquête.
Le bar, pas essentiel donc, mais le renforcement annoncé du bracelet anti-rapprochement reste au cœur de la lutte contre les violences conjugales.
Voilà, bar initial de bracelet anti-rapprochement. Système lourd à déployer, Winnie ?
Alors voilà, le gros enjeu de ce dispositif, c'est de l'appliquer d'abord par la justice. Quand on est dans le cadre d'une procédure civile, et c'est le cas dans une grande majorité des affaires, le juge ne peut pas imposer le bracelet anti-rapprochement au conjoint violent. Il faut absolument son accord. Et ça concerne donc surtout les cas les plus graves. Mais c'est aussi une grosse contrainte pour les victimes elles-mêmes qui n'ont pas la main sur le boîtier, qui sonnent dès que le conjoint violent est dans leur périmètre. Facteur de stress et parfois même un vrai boulet pour elles. Certaines ont même demandé à arrêter le dispositif, tellement c'était lourd.
Et rappelons que la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences est désormais accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est le 39-19. Les chiffres de l'épidémie de Covid hésitent entre stabilité et baisse. Moins de 11 000 patients à l'hôpital, 2300 en soins critiques, 16 000 nouveaux malades. On était à 20 000 il y a une semaine. Le cap des 50 millions de primo-vaccinés sera atteint dans les jours à venir. On en est à 48 650 000 selon Santé publique France. Au début de cette épidémie, on avait mesuré la dépendance de la France vis-à-vis de l'étranger pour une partie du matériel médical et des médicaments. Un décret paru hier oblige désormais les laboratoires à avoir devant eux 2 mois de stock pour certains médicaments. Véronique Julia, on en était à près de 2500 signalements de rupture l'année dernière.
Toutes les classes de médicaments sont concernées par ces signalements. Médicaments cardiovasculaires, anti-infectieux, anti-cancéreux aussi. Ce sont des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Médicaments essentiels donc pour lesquels une interruption de traitement peut constituer une mise en danger vitale. Typiquement, ça concerne par exemple des malades de Parkinson qui alertent d'ailleurs depuis des années sur des ruptures de stock récurrentes et sur le stress que ça occasionne pour les patients. Christiane Gachet de l'association France Parkinson.
Il y a 2 ans, on a une rupture majeur d'une molécule de base, c'était le Sinemet. Pendant 6 mois, il n'y a plus de Sinemet. Ça a compliqué un petit peu leur vie quotidienne et puis surtout, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui entraîne beaucoup d'angoisse. Ça les a pas mal bousculés.
Avoir un stock de sécurité de 2 mois, évidemment, c'est un soulagement. C'est la première fois qu'une législation dans l'Union européenne impose ces 2 mois de stock, ainsi que l'obligation pour les laboratoires de prévenir d'une rupture à venir.
l'obligation de prévenir, on est tous contents qu'elle existe. Ça permet de se réorganiser. Si cette obligation n'est pas respectée, il y a une amende systématiquement appliquée.
Complexité des chaînes de production, problèmes d'approvisionnement, augmentation de la demande mondiale, les raisons de ces ruptures sont multiples. Le problème en tout cas méritait qu'on s'en préoccupe car il ne cesse de s'aggraver. En 2020, l'agence du médicament a enregistré 2446 signalements de tensions ou de ruptures de stock. C'est 6 fois plus qu'il y a 4 ans.
Je vous parlais de l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés en France. Manifestement, le ministre de la Santé est pressé de l'atteindre. Olivier Véran qui annonce que tous les centres de vaccination proposeront de la vaccination sans rendez-vous ce week-end, histoire d'accélérer les choses. Au nord-est des États-Unis, on en est à 44 morts après le passage de la tempête Ida. Le vent a tué de New York à la Pennsylvanie en passant par le New Jersey. Les dernières informations sur ce sujet.
Un phénomène météo historique, a dit le maire de New York, Bill de Blasio. Et le New York Times ne s'y trompe pas quand il fait le compte des morts et titre aujourd'hui sur l'ouragan le plus meurtrier depuis Sandy en 2012. Photo à l'appui, des voitures empilées les unes sur les autres, des rues encore boueuses après la montée des eaux, des rues transformées en torrents de façon soudaine. De nombreuses victimes à New York ont été prises au piège, noyées dans leur sous-sol, des logements insalubres au pied des immeubles de Manhattan, de Brooklyn ou du Queens. Le New Jersey, l'état voisin, est encore plus durement touché. Et là-bas, la plupart des victimes ont été prises au piège cette fois dans leur voiture. La Maison-Blanche a déclaré l'état d'urgence dans ces deux états, état de New York et du New Jersey. Et le président Joe Biden désigne déjà le responsable, le dérèglement climatique.
Les derniers jours avec l'ouragan Ida, les gros feux dans l'ouest et ces inondations éclairs sont précédents à New York et dans le New Jersey. Nous rappelle que les phénomènes extrêmes et la crise climatique sont là. Nous devons être bien mieux préparés. Nous devons agir.
Agir à long terme. Joe Biden a fait de la transition écologique une priorité de son mandat. Agir à court terme également. Le président a promis aux victimes l'aide fédérale face à l'urgence.
Voilà pour les précisions de Benjamin Illy. 4 jours après le départ des Américains, quelques avions sillonnent le ciel d'Afghanistan. Des vols intérieurs, humanitaire sous l'égide du Programme Alimentaire Mondial et civil de la compagnie Ariana Afghan Airlines. Les talibans n'ont toujours pas présenté leur gouvernement. Y aura-t-il des femmes ? C'est un test pour ceux qui espèrent encore qu'ils aient un tant soit peu changé ces talibans depuis 20 ans. Demain, peut-être, ce gouvernement, il devra faire face à une crise économique. Très peu d'argent liquide disponible à Kaboul et en Afghanistan. Les banques sont prises d'assaut. C'est ce que raconte Cyril Payen, l'un des derniers journalistes occidentaux dans le pays.
Ils sont par milliers, on les voit dans les rues à faire la queue pour un distributeur d'argent qui ne va donner qu'au compte-gouttes de l'argent liquide. Il y a une pénurie énorme d'argent liquide qui fait que c'est un gros problème quotidien pour les ménages. Tous les ministères sont encore fermés. Il faut que ça refonctionne, il faut que les ministères refonctionnent puisque aujourd'hui on est au point zéro et le pays est vraiment au bord de l'effondrement humanitaire, financier, social, avec dans la rue des gens qui ne parlent pas mais qui sont très sombres. On se demande s'ils vont se laisser faire ou subir le règne de terreur comme en 96 où il va y avoir une sorte de réelle politique d'adaptation avec l'aide aussi évidemment de nations comme le Qatar, comme la Turquie. Peut-être ils vont essayer de non pas avoir des talibans libéraux, ça personne n'y croit, mais au moins un peu plus empreint de pragmatisme vis-à-vis de l'état du pays.
Du côté de l'Union européenne, elle maintiendra une présence à Kaboul si les conditions de sécurité le permettent. C'est ce que précise ce vendredi le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. À l'image d'un Tony Blair naguère ou d'un Barack Obama, au Canada, Justin Trudeau est l'un de ses dirigeants qui sont arrivés au pouvoir jeune, très populaire au départ, et par le centre. Il est Premier ministre du Canada depuis 6 ans, mais n'a plus de majorité au Parlement avec son parti libéral. Et le 15 août dernier, fort de sondages favorables qui lui donnaient l'espoir de retrouver cette majorité, Trudeau a convoqué des élections générales le 20 septembre, très bientôt. Sauf que la campagne ne se déroule pas comme prévu. Les conservateurs, derrière leur candidat Erin O'Toole, remontent. Hier avait lieu le premier débat entre chefs de parti et il était sur la défensive. France Inter à Montréal, Hélène Jouan.
Le pari de Justin Trudeau se révèle plus hasardeux que prévu. Les Canadiens ne comprennent pas la nécessité de ces élections anticipées en pleine quatrième vague. Le Premier ministre a dû de nouveau justifier sa décision.
C'est maintenant que les décisions se prennent sur la vaccination, sur comment on va en finir avec cette pandémie et aussi comment on va rebâtir en mieux. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans même 1 an, c'est maintenant dans les mois à venir. On doit donner aux Canadiens le choix.
Ciblé de toutes parts pour son manque de leadership dans la crise afghane, pour ses promesses écologiques non tenues ou sa politique d'aide sociale trop généreuse, Justin Trudeau a tenté à son tour de mettre en difficulté son principal concurrent, le candidat conservateur.
Vous n'avez pas chiffré votre plateforme, c'est pas sérieux comme approche.
Mais le leader conservateur Erin O'Toole en hausse dans les sondages veut croire qu'il incarne désormais le choix du changement voulu par les Canadiens.
Il y a seulement deux choix dans cette élection. Toujours la même chose avec Justin Trudeau et les autres, ou un changement avec les conservateurs.
Il reste tout juste 3 semaines de campagne. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson en colère après le match Angleterre-Hongrie en préparatoire de la Coupe du Monde. Il dénonce des insultes racistes totalement inacceptables qui ont visé des joueurs de l'équipe d'Angleterre. C'était à Budapest ce match. En tennis, Novak Djokovic est toujours en course pour le Grand Chelem. Le numéro 1 mondial a facilement passé le deuxième tour cette nuit à l'US Open, qualifié aussi Gaël Monfils, dernier français en lice dans les tableaux masculins et féminins. Aux Jeux paralympiques, tennis fauteuil, le français Stéphane Houdet tient parfaitement son rôle de porte-drapeau. Il vient de remporter l'or en double avec Nicolas Pfeiffer, Guillaume Batin.
Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet côte à côte sur la première marche du podium. Drapeau tricolore sur les épaules, la main sur le front comme les militaires. La médaille d'or autour du cou après une bataille de 3h25 et en 3-7, 7-5, 0-6, 7-6. Pas de doute pour le couple en or, c'est leur plus belle victoire de la saison. Et leur plus belle médaille.
C'est l'une des plus grosses victoires, oui, parce qu'on a déjà eu Rio ensemble. Donc après, on est toujours fiers de remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques hein, tous les 4 ans. C'est incroyable, quoi.
Pour moi, c'est la plus belle. Ouais. Pour moi, c'est la plus belle parce que répéter, c'est incroyablement fort de faire le back-to-back comme disent les Anglais. Et surtout, à Rio, on était tête de série numéro 1, on avait beaucoup gagné, on les dominait tout le temps. Là, on a pris une raclée au British Open, ils ont gagné les 3 premiers grands chelems, on dominait plus. Donc là, cette médaille d'or, elle est juste sublime.
Pas le temps de fêter leur deuxième titre paralympique consécutif, Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet vont très vite filer à New York pour l'US Open.
Et encore de l'or ces dernières heures pour les Français aux Jeux Paralympiques. De l'or en tennis de table pour Fabien Lamyrault et son binôme Stéphane Moliens. On en est à 51 médailles, dont 10 en or. L'objectif des 35 est allègrement dépassé. 2 mois après le Festival de Cannes, la Mostra de Venise bat son plein. Après Almodovar en ouverture, l'Italien Paolo Sorrentino présentait hier soir son nouveau film « La main de Dieu ». Allusion à Maradona, évidemment, qui avait utilisé cette formule après avoir marqué de la main en Coupe du Monde de football. Maradona, personnage fantasque, star de l'équipe de Naples, la ville de naissance du réalisateur, qui est au cœur de ce film, cette ville. Film dans lequel Sorrentino se livre. Corinne Pellissier.
C'est à ce jour son film le plus personnel, un grand bond en arrière dans le Naples des années 80, à travers le personnage de Fabietto, version adolescente dans Paolo Sorrentino, déjà fou de cinéma et de football. Les souvenirs de plage, les repas de famille, pratiquement rien de ce qu'il montre ici n'a été romancé et nous éclaire plus que jamais sur son cinéma et ses choix stylistiques.
Je crois que je commençais à en avoir un peu marre de faire toujours le même film. J'ai eu envie de changer complètement de direction. Après tout, Naples est la ville où j'ai grandi et où j'ai tout appris. Et j'avais envie d'un film plus nuancé qui convoque mes sentiments de l'époque.
Des personnages hauts en couleur qu'il malmène avec tendresse dans un récit d'apprentissage toujours émouvant. L'œil formateur du maître, Antonio Capuano, et bien sûr, la disparition de ses parents. Accident domestique auquel il échappera de peu en allant voir jouer Maradona, la fameuse main de Dieu qui donnera son nom au film. À mi-chemin, entre le journal intime et l'histoire de tout un peuple, un bel hommage rempli de couleurs éclatantes à la ville de Naples et aux origines du réalisateur.
Le film sortira sur Netflix le 15 décembre, présenté ce soir à la Mostra, le dernier film du chilien Pablo Larraín, Spencer, qui est consacré à la princesse Diana, et puis un remake de Dune hors compétition. Dans un instant, la météo, puis notre invité Eric Fotorino.
France Inter M.
La 43e édition du Livre sur la Place à Nancy, du 10 au 12 septembre. 3 jours de rencontres et de lectures avec près de 500 auteurs dans un cadre patrimonial unique. Une édition exceptionnelle, présidée par l'artiste peintre et auteur de bande dessinée Enki Bilal. Cette année, la Grèce est pays invité d'honneur. La 43e édition du Livre sur la Place à Nancy, du 10 au 12 septembre, un événement France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
En vous disant d'abord que l'Hérault est placé en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Et en saluant évidemment Sébastien Léas. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Risque d'averse au sud donc Sébastien.
Oui, entre la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et les régions de la Méditerranée, il faut s'attendre à des averses cet après-midi et même à des orages. Alors ces averses localement orageuses seront assez dispersées, certaines régions seront plus touchées que d'autres. Ce sera notamment le cas entre le Languedoc et l'Ouest-Provence, la Corse ou encore près des Pyrénées. Il y a notamment un orage soutenu en ce moment sur Montpellier et sa région qui en plus est quasi stationnaire. Météo France vient d'ailleurs de placer le département de l'Hérault en vigilance orange pour des fortes pluies et des risques d'inondations. Quelques éclaircies arriveront quand même à percer vers le midi toulousain ou encore entre les plages des Landes et de la Charente-Maritime, mais c'est sur la moitié nord que le soleil sera le plus généreux. Sur le Finistère, le Cotentin et entre la Haute-Normandie, les frontières belges et l'Alsace, l'après-midi sera d'ailleurs largement ensoleillé. À noter tout de même que l'instabilité du sud va déborder vers les pays de la Loire, l'Orléanais, la Bourgogne-Franche-Comté en fin d'après-midi. Les températures, elles sont plutôt douces, prévoyez 22 à 29 degrés en général, avec 25 degrés pour Clermont-Ferrand, Toulon, Quimper, Amiens ou encore Mont-de-Marsan et 28 degrés à Paris.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30, quand un roman raconte le monde paysan menacé de disparition.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Un dernier hiver, un vrai, comme quand il était gamin, avant le changement climatique, avec des perles de glace contre les branches des arbres. Brun d'Antôme vit son dernier hiver sur ses terres des Soulayans, dans le Jura. Ce paysan, bref et carré, capable d'écraser une pomme dans la paume de sa main, on est réduit à compter les crans de sa ceinture autour de sa taille de plus en plus maigre. Brun est malade, malade de ces produits qu'il a épandus pendant des années et qui lui laissaient des traces jaunes sur ses bras nus. Lui qui a cru à la révolution agricole des Trente Glorieuses, qui a appris l'agronomie, les gros rendements à l'hectare comme un Américain. Pour quelques dizaines de milliers d'euros, il vient d'accepter, sans vraiment le vouloir, l'installation d'éoliennes sur ses terres. Il sait, il voit, il entend que cela enterre un peu plus le monde dans lequel il a grandi. Alors il se raconte à son fils, avec qui le dialogue n'a pas toujours été facile, mot qui penche du côté des écolos et du bio. Le roman s'appelle Mohican. Il raconte un monde au bord de l'époque et toutes ses contradictions. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Bruno Duvic.
C'est vous qui signez ce roman chez Gallimard, votre 14e roman déjà, en plus de votre activité de journaliste, entrepreneur de presse, Le 1, Zadig, Légende. J'invite les auditeurs qui le souhaitent, il y en a déjà beaucoup, au 01 45 24 7000 à dialoguer avec vous. D'où vient ce personnage de Brun d'Antôme?
Brun, il est né d'une colère.
Oui.
Il est né d'une colère parce que les paysans, je les suis, sont avec moi depuis plus de 30 ans. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai suivi toute leur vie, leur destinée, j'allais dire, quand j'étais un jeune journaliste agricole du Monde.
Oui.
Et ils m'ont jamais quitté. Cette terre et cette lutte et cette incompréhension, cette espèce de surplomb permanent qu'il y a entre le rat des villes et le rat des champs, entre les citadins qui se piquent de bio, et puis qu'est-ce que c'est que la terre? La terre, elle est basse, toujours basse. On l'a vu au moment du confinement. Les gens qui ont voulu aller donner des coups de main, ils sont vite revenus. C'est dur, c'est un métier dur, c'est un métier âpre. Il n'y a pas de toit pour vous protéger. Il y a le soleil, il y a la pluie, il y a trop chaud, il y a trop froid. Il y a la paperasse, il y a tout ça. Et donc, Brun d'Antôme, il est né de ça. Mais pour vous donner, faire une confidence, parce que c'est quelque chose, j'ai commencé à écrire ce livre en juillet 2015,
ouais,
après avoir commenté le Tour de France pour la télévision, parce que ça m'a remis la France dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est une couture, des coutures de petits pays. Henri Mondras disait, c'est un art de localité. Et on veut tailler le même costume à un pays qui est un pays parce qu'il est couturé de toutes ces terres, de tous ces hommes et ces femmes qui la travaillent. Et on croit que un modèle unique suffit. Non, justement non. Et donc l'histoire de Brun, c'est cette histoire d'avoir cru et de pas avoir réussi comme il voulait.
Je note au passage, vous avez commencé à écrire en 2015.
2015,
ça veut
juillet
dire que
2015.
Vous menez, pardon, je fais une petite parenthèse, vous menez en parallèle plusieurs projets d'écriture, vous
toujours,
travaillez comme ça?
Toujours. Toujours parce que l'écriture, elle vient quand elle veut.
Oui.
Elle vient pas toujours de la même manière. Quelquefois, elle vous parle de paysans. Quelquefois, elle peut vous parler, comme ça a été mon cas de Marina Abramovic, oui, dans un autre contexte. Voilà, pour moi, l'écriture, c'est il faut être là quand elle coule. Et quand elle coule, voilà, faut suivre le sillon.
Allez, on revient au monde paysan et l'intervention de José au 01 45 24 7000. Bonjour, José.
Bonjour, France Inter. Bonjour, Bruno Duvic et cher Yonès, si je ne me trompe pas.
Absolument, je vous confirme.
Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Je vous appelle Bruno quand c'est comme ça. Bonjour, monsieur Vottorino.
Bonjour, monsieur.
Je suis fils de paysan et je me suis régalé à lire votre livre. Je l'ai lu d'un trait, il est acheté mercredi dans une librairie que Bruno Duvic doit connaître, la librairie Agora.
Bon, c'est bien noté, on parle de La Roche-sur-Yon, là.
Et oui. Voilà, merci. Et moi aussi, j'aurais pleuré à la mort du cheval Perceval.
Oui.
J'ai vu toute l'incompréhension qui existait entre le père et le fils par rapport à la situation, mais les personnages que vous décrivez, Brun, Maud, Isidore, Célia, l'amour perdu. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je l'ai vraiment lu d'un trait et je conseille de le faire
Merci
lire à beaucoup de personnes.
Et est-ce que vous avez une question, José?
Oui. Quelle part de récit réel et de roman dans votre livre, s'il vous plaît? Et après, quand vous m'aurez répondu, s'il vous plaît, je vous ferai une proposition très honnête pour qu'on puisse se reparler.
Bon, alors, Merci. Ce sera très court, si ça vous ennuie pas, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard.
J'ai fait tout de suite la proposition. Écoute,
allons-y.
Monsieur Vottorino, puisque vous vous baladez en France, vous venez en France, venez s'il vous plaît faire dédicacer votre livre à la librairie Agora La Roche-sur-Yon. Je serais ravi de vous recevoir. Bruno Duvic peut-être aussi.
Mais de La Rochelle, donc
venez,
je viendrai.
Venez chez nous,
on regardera
à La Roche-sur-Yon,
tout ça.
Vendée.
Allez, voilà. On regardera. Merci José. Quelle part d'imaginaire, quelle part de réel? Et c'est vrai qu'il y a une précision dans la description de la nature, dans la description des gestes agricoles. Vous nous disiez que vous étiez à la rubrique Agriculture du Monde. Quelle part d'imaginaire
est L'histoire réel est complètement inventée. Je veux dire, par là, cette lignée de paysans des Dantômes depuis Léonce après la guerre et puis Brun. Et puis mots, je les ai inventés parce que je voulais vraiment faire un roman. C'est un roman qui me parlait, c'était pas un essai sur l'agriculture, un essai économique ou sociologique, non, c'était vraiment une histoire avec des gens avec qui on est, auxquels on peut s'identifier, on peut comprendre leurs peines, leurs douleurs, leurs espérances. Donc, mais bien sûr, moi je suis une sorte d'hypermnésique, je veux dire par là, quand des choses m'ont touché, ou alors d'un hypermnésique émotionnel, je veux dire par là, il y a des choses, je les retiens pas, on peut me le dire 10 fois, je les retiendrai pas parce que ça m'intéresse pas. Mais j'ai tellement vécu ces gestes, justement, ce labeur, ces jours passés à la terre, à la sillonner, à la labourer, puis après à ne plus la labourer, à attendre la météo. Donc, je pense que c'est fait de tous ces reportages, sûrement, que j'ai fait, mais pas seulement en France, d'ailleurs. Je me souviens que quand je voyais les terres gelées en France, je faisais des reportages au Brésil pour Le Monde, où je voyais des paysans sans terre et des paysans sans terre, alors qu'en France, c'était des terres sans paysans. J'ai labouré des champs, on m'a appris à labourer un champ en Éthiopie, des terres qui donnaient que des cailloux. Donc nous, on a une terre fertile, on a une terre formidable en France. Je parle de la Limagne, je parle de la Beauce, etc. Mais aussi, on a des petits pays en pente, comme le Jura, où faire rentrer un tracteur, c'est quasiment impossible. On est toujours avec quelquefois des bœufs attelés. Je veux dire, par là, c'est ça qu'il faut avoir en tête, cette vision sensible de ce qu'est l'agriculture. Donc c'est un roman, c'est-à-dire c'est vraiment une source d'imaginaire, de fiction, bâtie sur des connaissances.
Et ce qui est passionnant, et après on prend Étienne au standard, c'est que ce Brun d'Antôme, il faut pas se tromper, c'est un moderne d'une certaine manière. Oui. Son père, Léonce, pratiquait l'agriculture à coup de dicton. Lui, il a voulu apprendre, a voulu se reposer sur la science, et il a cru... Il croit pas en Dieu, mais la distribution des pains, il y a cru en quelque sorte.
Oui, vous touchez un point très sensible, très important. Ils ont voulu sortir de leur arriération, parce qu'on les considérait comme des cutéreux, des bouseux, des gens qui savaient rien. On en savait toujours assez pour faire paysan. Ben lui, c'est le contraire. Il a voulu apprendre. Le jour où il a eu son certificat d'études, il a pleuré, pas de joie, parce qu'il savait que c'était la fin des études pour lui, qu'il apprendrait pas encore plus. Et donc, un jour, il s'est rebellé contre ça, et avec d'autres jeunes dans le Jura, ils ont fait ce que Michel de Baptiste, qui a été longtemps président du CNJA, des jeunes agriculteurs autrefois, appelait la révolution silencieuse. Qu'est-ce que c'était la révolution silencieuse? C'était, si on voulait savoir parler au préfet sans vider nos tracteurs pleins de purins dans la cour de la préfecture, il fallait apprendre les mots, il fallait apprendre à parler, donc ils vont faire du théâtre, ils vont apprendre à jouer des pièces de Molière dans les cours de ferme, et en même temps, ils vont faire des cours d'économie, des cours de géopolitique, pour comprendre ce que c'est que le monde, le marché international.
Comprendre l'Amérique,
etc. Donc, si vous voulez, ce que j'ai voulu montrer à travers Brun, c'est qu'il pense qu'il a tout fait bien, et qu'à un moment donné, sa maladie est une sanction, comme s'il avait tout fait mal.
Étienne au standard. Bonjour Étienne.
Bonjour Bruno Duvic.
Nous vous écoutons.
Bonjour à monsieur Vottorino.
Bonjour monsieur.
Déjà, je voulais vous remercier tous les deux. D'une part, d'avoir écrit ce livre, comme vous en avez parlé, c'est une fiction et parfois beaucoup plus évocatrice qu'un essai. Parce que c'est un sujet qui est très préoccupant. Moi-même, je suis éleveur de chèvres et fromager dans le Charolais, donc un de ces petits territoires dont vous parliez, en Bourgogne du Sud, un territoire très agricole où, pour le coup, je suis à la fois dans une production la chèvre et un territoire qui est où il y a encore beaucoup de paysans Et pourtant, c'est une vraie préoccupation parce qu'on voit qu'on est une espèce en voie de disparition et qu'on n'arrive plus à faire face. On n'est plus assez nombreux, tout simplement. On dit qu'il faut toujours être très passionné pour faire notre métier. Et j'ai l'impression aujourd'hui, moi j'ai 37 ans aujourd'hui, qu'il suffit plus d'être passionné, mais il faut aussi être convaincu que notre travail a une utilité sociale pour continuer d'avoir la motivation de le faire.
Et ça veut dire que vous êtes tenté de laisser tomber ?
J'ai envie de dire que tous les jours, je me dis que je fais le pire et le meilleur métier du monde. Ouais. Et donc, j'ai pas du tout envie d'arrêter ce métier. Bon. Mais pourtant, il est difficile, oui, c'est sûr, sur plein de points de vue.
Merci beaucoup, Étienne, pour ce témoignage. Alors, les éoliennes. Brun accepte sans le vouloir. Je ne sais plus la formulation que vous utilisez, mais c'est ça. Il veut sans le vouloir que des éoliennes soient implantées chez lui. Alors, on va pas refaire le débat sur les éoliennes, Éric Fautorino. En tout cas, dans cette histoire, elles arrivent, je trouve, sur un mensonge de l'argent qu'un promoteur fait miroiter, sans dire à quel point elles vont tout bouleverser.
C'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un nouvel écueil de la modernité ou de miroir aux alouettes de qu'est-ce que ça peut être. Il faut rappeler le contexte, son exploitation elle est en difficulté parce qu'ils sont très endettés, que les prix agricoles sont très bas, donc leurs revenus sont si faibles que s'ils ne trouvent pas une manière de compenser, ils disparaîtront. Ça c'est le premier point. Ensuite arrivent ces promoteurs qui tournent autour de lui déjà depuis longtemps. Et comme lui, ayant appris sa leucémie, il intériorise l'idée qu'il a été un pollueur, et ça le fâche, et ça le contrarie, et au-delà. Eh bien, l'idée des éoliennes, c'est l'idée de se racheter un peu, c'est-à-dire de faire une énergie propre, et en plus de ça, d'avoir 50 000 euros s'ils l'ont planté 6 ou 7, s'il avait aussi le contrat de mariage au début, le panier de la mariée au départ, on vous donne une prime de 6 ou 10 000 euros. Donc il dit, bon an mal an, pour l'exploitation, ça peut faire 40-50 000 euros. Et c'est là qu'il y a le piège. Parce qu'effectivement, une éolienne, vous avez raison, c'est pas de savoir si on est pour ou contre les éoliennes, c'est pas ça. C'est que dans des lieux, il y a certains lieux où une éolienne, c'est dangereux. Il y en a d'autres, c'est sûrement positif parce que ça fait produire de l'énergie et que ça détruit pas le paysage. Mais là, en l'occurrence, dans ces zones fragiles du Jura, évidemment, les petits chemins vont disparaître. Il va bien falloir les acheminer, ces éoliennes. Donc, ça va devenir des routes et des autoroutes, quasiment. Il va falloir faire des aires de stockage.
Il va falloir des diagonales.
Il va falloir creuser pour mettre des câbles, pour relier à des centrales, etc. Et donc, à partir de là, on voit bien que c'est quasiment un chantier guerrier. Qui se met en branle, tous ces camions toupies qui vont injecter plus de 800 tonnes de béton liquide dans le sol, et puis ces mâts qui sont énormes. Donc voilà, et puis après les pales, les rotors, tout ce qu'on peut savoir sur les éoliennes et le bruit.
Alain au standard, bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler, nous vous écoutons.
Bah, écoutez, je voulais demander à Éric Fautorino ce qu'il pensait de la tradition séculaire, mais qui perdure encore aujourd'hui, et d'obéissance des agriculteurs qui ont été inféodés aux seigneurs pendant des siècles et qui aujourd'hui sont encore très encadrés par des politiques de subvention, des organismes divers et variés qui concernent tous les aspects de leur vie, et savoir ce qu'ils pensaient de l'impact de ce système sur la psychologie des agriculteurs. Je lui demande pas ce qu'il pense de ceux qui en profitent, évidemment.
Voilà. Merci, donc, merci Alain.
Vous avez raison de souligner que probablement le métier d'agriculteur en France et même en Europe, dans l'Union européenne, est probablement le plus administré. C'est une partie du temps des agriculteurs, c'est de remplir des papiers, d'être aux normes, de respecter tel ou tel type de normes pour obtenir ou des aides ou des subventions, etc. Mais je pense que c'est ça le grand paradoxe de l'agriculture, c'est que c'est un métier de liberté et d'asservissement. C'est-à-dire que tout à l'heure, le monsieur l'éleveur nous le disait tout à l'heure, il dit le plus beau métier du monde est le pire. Mais pourquoi le pire ? Parce que vous n'êtes pas maître de ce qui vous arrive. Vous êtes toujours entre les mains d'une administration, de contrôle, de subvention, certes. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on est beaucoup plus subventionné si on fait du haut rendement productif et polluant que si on veut justement sortir de ces sentiers-là trop battus et d'aller initier une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc, je pense qu'effectivement, les agriculteurs en France ne se sont pas affranchis de ce modèle.
Le temps passe très vite, Éric Fautorino. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a le personnage de Mo, le fils, qui représente un modèle différent, qui ressemble un peu à notre auditeur Étienne qu'on a entendu tout à l'heure. Je voudrais insister sur un autre point. Donc, à un moment, il se raconte Brun, à son fils Mo, qui se met à prendre des notes. Et il lui parle d'autrefois et de l'unité paysanne, du fait que céréalier de la Beauce, éleveur de cochons bretons, paysan jurassien, le combat était le même. Ça m'a fait penser à l'archipel français, le livre de Jérôme Fourquet. Oui. Cette unité paysanne n'existe plus.
Alors, elle n'existe plus, mais je pense que ce qu'il faut dire, si on est très honnête, c'est même quand Brun dit notre unité paysanne, c'était aussi un fantasme, c'était aussi une utopie. Il y a eu des moments comme ça où la paysannerie s'est retrouvée ensemble. Mais malheureusement, très souvent, c'est comme dans la chanson de Boris Vian, les généraux qui déclarent la guerre et qui ne la font pas. Les petits paysans étaient les fantassins derrière une armée de généraux qui ne bougeaient pas beaucoup, mais qui voyaient leurs intérêts. Donc très vite, s'est fracturée cette unité paysanne.
La mère, Suzanne, est morte très tôt. On a l'impression qu'il y a une malédiction chez ces dantômes qui pèse sur les femmes. Enfin, pas l'impression, on le constate. Est-ce que ça raconte un monde qui est voué à être un monde d'hommes?
Bien sûr, même si les choses changent. Cette femme est morte très jeune. Mo a eu une amie, une fiancée, qui finalement, les choses ne sont pas faites parce qu'il a gardé la terre. Il a préféré rester à la terre qu'entrevoir une vie avec elle, une vie de famille. Longtemps, un exploitant agricole plus une exploitante agricole égale un exploitant. La femme n'était pas comptée. Il a fallu de grands combats dans les années 80 pour que le statut d'exploitante agricole au féminin soit reconnu. Il y avait des drames, c'est-à-dire que l'homme mourait, la femme n'avait plus rien. Elle pouvait même perdre ses terres, tout, alors qu'elle avait travaillé autant que l'homme au moins. La femme, c'était la basse-cour autrefois. Donc je pense qu'effectivement, cette révolution silencieuse, elle doit être plus bruyante aujourd'hui pour faire en sorte que tout un chacun en France, on considère que c'est pas une autre France, que c'est la France qu'on mange tous les jours. Et ces questions d'environnement, de pourchasser les agriculteurs ou les éleveurs, je pense que c'est vraiment un des scandale français aujourd'hui.
Merci Eric Fotorino. Mohican, c'est publié chez Gallimard. Grande attention aux animaux. Il y a une scène de vêlage qui est très émouvante. Et puis on découvre la première truie punk. Moi, je ne la connaissais pas. Merci d'être venu dans le 13-14. 13h46.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Pas Brun, hein, bonjour.
Oui, vous êtes venu sur un cheval blanc, n'est-ce pas?
Oui, Henri IV, la grande biographie de Jean-Christian Petit-Fils.
À tout à l'heure pour les détails. Avant cela, dernier épisode de notre feuilleton. Une semaine dans la vie d'un infirmier et ses réticences vis-à-vis du vaccin. Et tout de suite, c'est une chanson. Une catastrophe à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. C'est une mauvaise blague. L'écrivaine et musicienne Blandine Rinkel, la chanteuse du collectif Catastrophe. Oui, oui. Voilà, j'ai fait ma blague. Collectif dont les membres alternent cinéma, théâtre, écriture et musique. Ils sont en concert ce soir à Salon de Provence. Blandine Rinkel vous parle d'une chanson qui lui tient à cœur.
Blandine Rinkel qui a récemment fait paraître Tout tremble, un livre d'entretien avec Jean-Marie Durand, publié aux Presses universitaires de France. Et c'est de Aimez-moi qu'elle a choisi de me parler, une chanson de Philippe Catherine.
J'ai écouté son dernier album In Extenso quand il est sorti. Je voyais plein de malice, il y avait plein de phrases que je retenais. Et cette chanson m'a fait pleurer. Ça m'a atteint très directement, comme si quelqu'un me regardait dans les yeux et me disait quelque chose qui manquait à ma vie.
Si je gueule quand tu dors pas, je suis pas un vrai papa. Si tu dors pas, c'est que tu as quelque chose qui va pas. Tout pour ma gueule, je pense à moi, à ce quelque chose en moi. Mais celui qui pense qu'à lui, c'est pas un vrai papa. À l'hôpital, c'est pas normal, j'avais plus peur que toi. Avec cet animal, pas normal, j'avais plus peur que toi. T'as des yeux à croire en Dieu. Non, un papa c'est pas Dieu. De toute façon Dieu, c'est pas un vrai papa. Ton papa, il sera plus là. Tu diras quel papa. C'est classique, quelqu'un nous quitte et il devient un roi.
Enfin, rien que ces mots, la mort rend les gens beaux, ça m'a fait réaliser qu'il y a certaines personnes que je n'ai trouvées belles qu'une fois qu'elles étaient décédées. Le morceau dit ça, mais le morceau dit du coup aimez-moi tant que je suis là.
aimez-moi.
C'est à la fin et je pense que, à titre personnel, c'est sans doute très banalement pour ça que j'écris, que je fais de la musique, que je fais plein de choses. C'est une manière, pudique ou non d'ailleurs, de dire aux autres « aimez-moi tant que je suis là », une sorte d'insécurité fondamentale que j'éprouve du fait d'être, je sais pas, assez consciente du fait qu'on va mourir. Parce que dans ma vie d'enfant, il y a eu des fantômes, des enfants que mes parents avaient eu avant moi, qui sont morts. Des fantômes comme ça, récurrents, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi entouré de fantômes. Et en écoutant cette chanson, je pense que c'est ça qui m'a fait pleurer. Je pense que j'ai senti la présence des fantômes dans la musique.
C'est étrange.
Ouais. Puis c'est aussi, toujours avec Philippe Catherine, cet art de dire des choses très profondes sans avoir l'air d'y toucher, enfin, avec une sorte de malice, de croque-mort. J'aime beaucoup ça chez lui. Une sorte de clin d'œil dans lequel on entrevoit des ténèbres.
Aimez-moi.
Tant que je suis là.
La malice de croque-mort de Philippe Catherine, comme le dit Blandine Rinkel. Ce titre est sorti en 2019, Frédéric.
Oui, sur son album Confession, son 14e album. Et c'est vraiment une chanson qui suscite les confidences.
Il m'est arrivé plein de fois de l'écouter au casque, en marchant dans la rue, en métro. Et ça recolore systématiquement ce que je vis. En apportant une pointe de tragique, donc en rendant importantes, essentielles, les choses que je vois et que je vis. Quand on pense à sa propre mort ou à la mort des gens, ben, le présent en fait se voit intensifié. Et c'est ça que fait ce morceau.
Aimez-moi.
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 Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment aimé ?
Non. J'ai le sentiment d'être désiré. Mais pas aimé.
Et vous pleurez encore quand vous l'entendez aujourd'hui, cette chanson ?
Je pleure pas non plus à chaudes larmes à chaque fois, mais ce serait excessif. Mais ouais, elle m'émeut. Si par exemple, je sais pas, je suis chez des amis et que je l'entends soudain sur un haut-parleur, je vais tout à fait perdre la conversation et être plus attentive à la musique, à ce qui se dit.
Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi.
Aimez-moi de Philippe Catherine, c'était donc le choix de Blandine Rinkel, écrivaine et chanteuse du groupe Catastrophe.
En concert ce soir au Portail Coucou à Salon de Provence et demain soir à Villefranche-sur-Mer dans le cadre de la Crème Festival.
À demain, et non, à lundi, bon week-end Frédéric.
À lundi.
C'est le dernier épisode de notre feuilleton avec Julien, infirmier dans un hôpital du Val d'Oise, au micro d'Antoine Gignot. Les soignants devront être vaccinés pour venir travailler à l'hôpital à partir du 15 septembre. Julien s'est finalement fait vacciner, mais pas de bon cœur.
J'avais pas spécialement envie de me vacciner. J'ai survécu à toutes les vagues, j'ai contaminé normalement personne et ça s'est très bien passé comme ça. Et là, du jour au lendemain, on nous dit qu'on n'a plus le choix. Si on est en CDI, on n'est pas viré, mais on est mis à pied avec plus de salaire. Donc, en gros, obligé de se vacciner parce que sinon, on n'a plus d'argent pour vivre. C'est ce côté-là un peu qui m'a un peu chagriné. Et, du coup, j'ai été obligé, moi, de mon côté, de faire déjà ma première dose. Et j'ai la deuxième dose, là, qui va arriver bientôt. On a reçu une note d'information par courrier. Et aussi dans nos services, nous disant qu'on avait l'obligation d'avoir la deuxième dose avant le 15 octobre. Tant que le pass sanitaire n'est pas complet, c'est-à-dire les deux doses, on doit normalement faire des tests PCR toutes les 72 heures pour prouver qu'on n'est pas atteint de la Covid. Les premières, deuxièmes, troisième vagues, on nous a rien dit du tout. Et puis là, comme ça, du jour au lendemain, on a claquement de doigts, il faut se faire vacciner, c'est mieux pour toute la Terre entière. Pourquoi pas avant dans ce cas-là ? Parce que le vaccin existait pas dès le début, mais il a existé très rapidement. Donc pourquoi est-ce qu'on nous a pas obligé à le faire dès le début ?
La réticence, elle était où pour vous ? Parce que vous avez été au cœur de l'épidémie, vous avez vu l'impact. On pourrait se dire le personnel soignant est concerné donc au premier chef pourrait se vacciner. Pourtant, quand on regarde des soignants pas vaccinés, il y en avait beaucoup encore ces derniers mois. Alors qu'est-ce qui vous a retenu jusque-là ?
C'est le recul qu'on a par rapport à ce vaccin-là. On n'en a pas assez, donc on peut pas connaître les répercussions s'il y en a. Hein, c'est pas obligatoire qu'il y en ait. Hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas de données scientifiques qui peuvent nous dire que le vaccin pourra rien nous faire d'ici 5 ou 10 ans.
Mais en même temps, si on attend 5 ou 10 ans, ça sera tard.
Oui et non. Aujourd'hui, oui, ça sera tard, mais parce que j'ai pas spécialement de réponse à vous donner. Moi, je suis pas un pro-vaccin, donc je peux te dire qu'on peut vivre sans le vaccin. Hein, donc, il permet pas de pas le transmettre à d'autres. Il permet juste d'atténuer les formes graves. Il bloque pas la transmission. Nous, on a eu plusieurs patients qui ont été vaccinés deux fois par Pfizer, deux fois par Moderna, soi-disant les meilleurs vaccins, et qui ont quand même eu le Covid. Ils l'ont même eu deux fois après avoir eu la double dose de vaccin. Ils n'ont pas fini en réanimation, c'est sûr. Mais s'ils étaient à l'hôpital, c'est qu'ils avaient besoin d'être pris en charge par une équipe médicale. Bon, c'était des personnes qui avaient plus d'une cinquantaine d'années, mais ça arrivait. Donc qu'on me dise que quand on est vacciné, on n'attrape pas de formes graves, entre guillemets, c'est pas spécialement vrai.
On attrape moins de formes graves ?
On attrape beaucoup moins de formes graves. Sinon, il servirait vraiment à rien, le vaccin.
L'argument du gouvernement, l'argument des médecins qui suivent ce dossier-là, c'est de dire on renforce l'immunité collective, donc on diminue le nombre de cas.
Ça sent grave.
Ça s'entend ?
Oui, bien sûr que ça s'entend. Il y a l'école des pro-vaccins et l'école des comme moi qui sont pas pro-vaccins. Ceux qui sont pro-vaccins vont vous dire oui, ça va renforcer l'immunité collective. Mais comme je vous dis, on n'a pas assez de recul dessus. Donc, est-ce qu'il faudra faire comme la grippe, se vacciner tous les ans pour qu'on ait une immunité collective ? Ça, on peut pas le savoir non plus.
Ces discussions-là, vous les avez au sein de l'hôpital ?
Non, c'est pas des choses dont on parle trop, parce que ça fait pro-vaccin, pro-pas-vaccin, donc ça peut diviser. On évite de parler de choses qui divisent entre nous, quoi.
Une semaine dans la vie d'un infirmier. Le feuilleton depuis lundi était préparé par Antoine Gignot, réalisation Lucie Lemarchand. Il est à réécouter les différents épisodes sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast. 13h55.
France Inter. Le 13-14.
C'est un des livres attendus par les amateurs d'histoire en cette rentrée. Jean-Christian Petit-Fils boucle sa série de portraits des rois Bourbons avec le premier d'entre eux, Henri IV, l'homme qui a mis un coup d'arrêt provisoire aux guerres de religion, né protestant, converti au catholicisme pour accéder au trône. Ventre saint gris, aurait pu dire Henri IV. Jean Lebrun, c'est une somme de 800 pages.
Et une sacrée synthèse sur un as de la synthèse. Synthèse, apparemment. Assemblage de parties composites, le mot apparaît en français en 1596, sous le règne d'Henri IV. Curieux hasard. En fait, les Français, après des décennies de guerre de religion, attendaient l'apaisement. Et le souverain avait des aptitudes pour cela. Il avait su rapprocher les armoiries du Béarn, des vaches, et celles de France, des lys. Et par tempérament, bonhomme, simple, il était capable de concilier l'inconciliable. En témoigne l'édit de Nantes qui fige les positions antagonistes des catholiques et des protestants. Petit-fils est persuadé que le destin du protestantisme est d'être recouvert par la contre-réforme catholique, mais l'intelligence d'Henri IV est de retarder habilement cette échéance.
Et il se pose aussi en arbitre de l'Europe.
Conséquent avec ses origines réformées, il fait perdurer ses alliances protestantes sur le continent, mais il régularise ses relations avec l'Espagne catholique. Catholique des Habsbourg par le traité de Vervins, 1598, deux ans après l'apparition du mot synthèse. Et Petit-Fils insiste sur le destin qui, en toute raison, doit être le sien et celui de sa famille, nouer le plus de mariages possible avec les maisons princières catholiques, en commençant par le sien avec Marie de Médicis. Il est vrai qu'il trouve un moment du plaisir avec cette promise. Il aimait le blanc et le gras et elle n'en manquait pas.
Bon, mais il est aussi attiré par le brun et le maigre. Il faut beaucoup de femmes pour satisfaire le vergalon.
Et c'est là que le bas blesse Petit-Fils. À l'entendre, le goût d'Henri IV pour ses maîtresses successives le mène à des faiblesses de plus en plus dangereuses. Passe encore que jeune, il s'entiche de la comtesse de Guiche, qui est une vraie dame de chevalerie. Gabrielle d'Estrée, compagne de beaucoup plus longue durée, commence à inquiéter tant sa famille est gourmande. Si elle n'était morte à 25 ans, en 1599, elle aurait pu faire avorter le mariage avec Marie de Médicis. Alors son agonie, que Petit-Fils décrit de manière effrayante, la bouche de la malheureuse se tord, ses cheveux se hérissent, aurait dû être lue comme un signe de Dieu. Mais Henri IV ne l'interprète comme cela que pendant un moment. Et avec la suivante, Henriette d'Entrac, c'est pis, son père, dissimule dans une muraille une promesse de mariage imprudemment signée par le vergalant. C'est un maître chanteur, le père. Pourtant, le roi, lui, est de moins en moins séduisant, devenu, je cite Petit-Fils, hein, fauve sénile, jamais lavé, pied fumant, aisselle puante. Et voilà qu'au grand scandale de Marie de Médicis, il récidive avec Charlotte de Montmorency, 14 ans, quand le jeune Condé, à qui il l'a marié, l'exfiltre du royaume pour l'emmener chez les archiducs Habsbourg à Bruxelles. Henri IV est prêt à pétarder cette ville au risque de mettre l'Europe à feu et à sang. On en est là. En 1610, l'année de sa mort.
Le bon roi Henri serait donc le roi du bon plaisir ?
C'est le mérite de ce livre de l'extraire de la série des images convenues. Et si demande Petit-Fils, c'était le premier roi absolu qui veut tout plier à sa volonté au risque de devenir un bout de feu. Il est assassiné, on le sait, le 14 mai 1610. Comme dit Chateaubriand, il est préférable de disparaître à propos de la vie, c'est une des conditions de la gloire.
Jean-Christian Petit-Fils, Henri IV, s'est publié chez Perrin. Un mot d'intelligence service demain 18h sur France Inter. Quel portrait intellectuel, Jean ?
Jean Rouch, le grand technologue, la caméra à l'épaule, qui est aussi un des inventeurs du cinéma vérité et de la nouvelle vague.
Rendez-vous demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme de la Terre au carré, Mathieu ?
Et le club dans un instant partira à Marseille pour le Congrès mondial de la nature. Et puis on invitera le chanteur Aldebert qui sera avec nous.
A tout de suite.
Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
Bah, ça va, t'es vacciné comme moi. Tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui ?
Moi, j'avoue, j'hésite encore. Franchement, je préfère attendre.
Mais t'es sérieux ? D'attendre quoi ? D'être hospitalisé ?
Attends, la question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. C'est important aussi, les autres.
Ok, mais entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'ils protègent vraiment ce vaccin ?
On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés ? Tous protégés. Plus d'informations sur les lieux de vaccination sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter M.
Transverse Orientation de Dimitris Papayoannou au Théâtre du Châtelet. Le chorégraphe présente sa nouvelle pièce pour 8 danseurs, montrant une fois de plus l'étendue picturale de son art. Puisant son inspiration dans les figures mythiques de Thésée et du Minotaure, il invite le spectateur à un voyage entre antiquité et modernité, entre passion et répulsion, sur la musique de Vivaldi. Transverse Orientation de Dimitris Papayoannou du 7 au 11 septembre. Un spectacle présenté dans le cadre des saisons du Théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville hors les murs. Un partenariat France Inter.
Le casting du 13-14 cette semaine, merci à Sarah Guibaudot, Claire-Sophie Collet, Anne Patinec, Antoine Quevilly, Benjamin Dussis, Stéphane Rousset, Michel Béziquian, Florent Layani, Selim Guéribi, Raphaël Juan et Lino Ostian au standard. 14h30.